Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous lisons un bon gros bouquin. Et encore, ce n'est que le premier tome.
Ce n'est que le début.
Oui.
D'accord.
Un livre qui n'était pas spécialement attendu, mais qui, quand on commence à s'y mettre, eh bien, nous oblige à aller jusqu'au bout. Ce premier tome nous parle d'histoire de littérature américaine. Ce n'est pas l'histoire de la littérature américaine, mais c'est une histoire de littérature américaine. Il était une fois l'Amérique, tome numéro 1, qui porte sur le 19e siècle. C'est une parution Les Arènes. Alors, cet éditeur s'est fait une spécialité de nous pondre un certain nombre de gros bouquins qui commencent par l'incroyable histoire de ou l'incroyable, etc. La bonne surprise, c'est qu'on sort un peu de ce type de série, pour le coup.
Oui, l'incroyable histoire du vin, de la bière, de l'argent, de la mythologie.
Du cerveau, etc., du sexe, etc., par exemple.
Par exemple, entre autres. Donc, format roman, format très lisible, avec un dessin très accrocheur, didactique. Enfin, c'est une merveilleuse collection, c'est la merveilleuse histoire, sans mauvais jeu de mots, redondance.
Mais ça sent un peu le filon, quand même.
Oui, mais bon, c'est un filon d'or.
Et là, le filon d'or, il s'est agrandi, parce qu'on est sorti du format roman graphique pour être dans un format plutôt classique, avec une fort belle présentation.
Ah oui, alors c'est le grand format pour de la BD, dos toilé, beau papier, ça ne gâche pas le plaisir, bien au contraire. Une histoire de littérature, une histoire de l'Amérique, c'est exactement ça. L'histoire de ce qui va devenir la littérature, les différents courants littéraires du roman, le roman américain. Et c'est tellement imbriqué avec l'histoire de l'Amérique, cette suite de portraits d'écrivains ou d'écrivaines. C'est vraiment la meilleure façon de raconter, c'est montrer qu'il y a des fondamentaux dans l'histoire de l'Amérique et l'histoire de la littérature qui se confondent. Alors c'est l'occasion d'en savoir plus sur des auteurs que je n'avais quasiment pas lus.
Vous allez les lire désormais, Thierry.
Peut-être.
C'est une incitation.
Évaluer la place qu'ils ont en tant qu'auteur, la place qu'ils ont dans la culture américaine. Par exemple, je ne savais pas que Walt Whitman était quasiment Dieu le Père là-bas. Je continue à battre ma coulpe. Walt Whitman, je le connaissais par Autumn Leaves. Et puis The One Dresser, parce que ça a été mis en musique par John Adams.
D'ailleurs, c'est impressionnant parce que la quantité de ces écrivains qui ont été adaptés sur le plan musique, qu'on peut qualifier encore, allez, je vais mettre avec des guillemets, de classiques.
Oui, Emily Dickinson, entre autres. Même Moby Dick, de Herman Melville, c'est devenu une cantate de Bernard Herrmann, le musicien d'Hitchcock, entre autres. J'y pense parce que je viens de lire une biographie de Bernard Herrmann par Carole Beffa qui est absolument passionnante. Mais je digresse.
Mais il y a aussi Mark Twain, Tom Sawyer. Alors là, tous les enfants connaissent.
On va trouver. Alors, c'est une sélection des grandes figures. Et à chaque fin de portrait, on a une arborescence au sens propre du terme. On a un bel et grand arbre avec un fort tronc et puis une multitude de branches qui vous indique quels sont... Alors, est-ce qu'on pourrait parler de continuateurs, des gens qui sont de cette lignée ou qui se situent dans une forme de succession de l'auteur dont on vient de décrire la vie. L'œuvre et la vie, les deux sont mélangés. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit si on ne dit pas que c'est raconté avec une verve, un humour, illustré par un dessin percutant. En fait, ça pourrait être un pinsum, une accumulation de connaissances, quelque chose de très bourratif au sens alimentaire du terme. Et en fait, ça passe, j'allais dire, comme un roman envoyé par la poste à un éditeur.
Oui, un bon gros roman, hein, effectivement. Alors, on va revenir aux auteurs américains, on va parler aussi des auteurs de ce bouquin-là. Hein. Il y a Catherine Murie au scénario, qui avait proposé au préalable l'incroyable histoire de la littérature française. Et puis, elle est accompagnée par Jean-Baptiste Ostache au dessin, qui, lui, nous avait proposé Shibumi, que vous aviez beaucoup apprécié.
Ah oui, un polar espionnage, plein d'action, d'une certaine profondeur. En tout cas, c'est du très bon entertainment, très cinéma, à lire absolument.
Et ils sont tous les deux parrainés par deux spécialistes, Oliver Gallmeister et François Guérif. Et en plus, c'est adoubé par François Bunel.
Alors là, c'est les palmes académiques d'un coup.
Tant que François Bunel est là, c'est la garantie d'un succès.
Non, j'ai l'air de me moquer, mais je trouve que c'est un excellent vulgarisateur, un excellent passeur de culture. Hein.
Vous l'expliquiez tout à l'heure, Thierry, on démarre avec l'histoire, en quelque sorte, des États-Unis.
Les pères fondateurs, oui. Les pèlerins qui débarquent du Mayflower, littéralement. Les Amérindiens. Vraiment les débuts de la nation américaine, tout à fait.
Où les Français jouent très mal leurs cartes.
Une fois de plus, on s'est tiré une balle dans le pied.
On a un peu l'habitude.
Oui.
Et puis, en ce qui concerne les auteurs, eh bien, ça démarre en trombe avec Fenimore Cooper, qui n'était pas du tout destiné à être écrivain.
Ah oui, c'est une scène très drôle, en fait. On le voit dans le cadre familial. Il est en train de lire de la très mauvaise littérature, et puis il dit, n'importe qui pourrait en faire autant. Et son épouse lui dit, chiche. Donc, il revient quelques cases plus tard. Il lui pose au pied, il dépose littéralement à ses pieds, une masse de papier. Voilà, c'est fait. Enfin, c'est pas très bon, c'est à peine meilleur, mais il a attrapé le virus et il va se perfectionner jusqu'à donner la saga de Bas de Cuir, les mythes fondateurs de la jeune Amérique.
Le dernier des Mohicans,
par
exemple.
Le dernier des Mohicans, pour citer l'épisode le plus connu de cette saga. Je crois que je les connaissais tous, effectivement, mais je connaissais pas finalement les détails de la vie des uns et des autres. Et je le répète, la vie et l'œuvre sont imbriquées. On peut dire que c'est toujours le cas quand on parle d'auteurs littéraires ou musicaux, enfin surtout littéraires. Mais c'est vraiment une démonstration que la société, la vie, l'œuvre, tout ça en Amérique sont liés et que cette jeune nation s'est construite avec des fondamentaux qui demeurent encore aujourd'hui, dont les jalons ont été posés dans l'œuvre littéraire des grands anciens. On va dire grands anciens parce que là, on parle du 19e siècle, mais ces grands hommes de la littérature et femmes.
On n'a pas encore mentionné Jack London.
Oui, j'ai tendance à oublier les évidences. Jack London, Herman Melville, parce que j'y pense, parce qu'il y a eu d'excellentes adaptations en bande dessinée. Alors, je radote en disant qu'il y a beaucoup de ces livres que je n'avais pas lus, que j'ai lus en bande dessinée. Et je me demande, si, quand c'est tellement réussi, si j'ai à ce point envie de les lire en tant que texte sans image. Est-ce que c'est une paresse ?
À vérifier. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, au bout du compte, et qu'il faut bien faire des choix aussi. Moi, j'ai lu, quand j'étais enfant, adolescent plus exactement, Edgar Allan Poe, avec ses histoires extraordinaires, ses histoires policières. On a affaire du fantastique avec James. On a aussi, avec Nathaniel Hawthorne, j'essaye de prononcer correctement, Les sorcières de Salem. Alors, en fait, là, je connaissais le livre et le film, mais j'avais oublié l'auteur. Étrange, non ?
La lettre écarlate, parce que ça a été adapté plus récemment.
Tout à fait.
Qui pourrait-on citer qu'on n'a pas cité ?
Il y en a que l'on aurait presque espéré voir ici, que l'on a découvert par ailleurs, justement en bande dessinée, on en parlera une prochaine fois. Ils ne sont pas présents.
Non, c'est un choix. Il est tout à fait légitime. Et je le répète, c'est tellement bien raconté. C'est très drôle, on s'amuse beaucoup. Même si souvent les vies de ces personnages sont assez douloureuses. Alors Edgar Allan Poe, c'est le pompon. Lui, c'est une vie de tragédie. Ou Emily Dickinson, c'est une vie de réclusion, réclusion voulue. Hein. Quelqu'un qui ne sortait littéralement pas de sa chambre. Ou Henry David Thoreau, Walden, en fait. Moi, je croyais que Walden, il parlait d'un lieu qui était loin de tout, en fait. Il était pas très loin de la civilisation. On apprend beaucoup de choses avec légèreté, et humour et profondeur. C'est une très grande réussite. Pour un livre qui est vraiment magnifique et plaisant, qui donne envie dès qu'on le prend en main.
Et qu'est-ce qu'on apprend justement, Thierry, par rapport à l'histoire des Amériques, surtout des États-Unis en l'occurrence, par rapport à l'évolution de cette société ? Parce que, en fait, ces auteurs, ils sont ancrés dans la vie de cette société et la manière à laquelle se construisent les États-Unis.
Je le disais, c'est une jeune nation, donc les fondamentaux sont récents dans cette culture. Le poids, c'est pas péjoratif, le poids du religieux. Le puritanisme, enfin, l'héritage des pionniers, en même temps, les interdits, la censure ou l'autocensure. Il y a beaucoup d'écrits de ces littérateurs qui sont déclarés obscènes ou contraires aux bonnes mœurs. Je le découvre en lisant ce livre. C'est vraiment l'Amérique, c'est une nation écartelée entre des extrêmes. C'est peut-être une tarte à la crème que je lance ou j'enfonce une porte ouverte, mais je l'avais rarement ressenti autant qu'en lisant cette histoire de la littérature américaine.
Et ça reste une réalité, on peut presque dire des siècles après.
Oui, je pense qu'on s'en apercevra dans les prochains volumes qui aborderont le 20e siècle, j'imagine.
Voilà, en tout cas, il y aura au moins celui-là de prévu. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'au 21e, on verra bien. Mais bon, on a de quoi lire pour le moment avec le 19e siècle. Il était une fois l'Amérique, une histoire de littérature américaine, le tome numéro 1. Apparaître bientôt le 20e siècle aux arènes. Et puis ensuite, on verra, il y a certainement d'autres choses à nous raconter en matière de littérature. Merci Thierry de ce partage d'aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on sera toujours dans la littérature américaine avec un excellent album qui nous fait réfléchir aussi à nos jours actuels, même s'il nous emmènera à une époque qui correspond sensiblement à celle que nous avons abordée aujourd'hui. À très bientôt Thierry, et merci encore.